This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Édition de 90 minutes info de la semaine. Je suis ravie d'être avec vous pour la présenter dans un instant. D'ailleurs, je vous présenterai les invités pour m'accompagner aujourd'hui. Mais puisqu'il est pratiquement 15h30, on va retrouver Éric de Rydmaten pour faire le point sur ce fameux conseil de défense qui a eu lieu une bonne partie de la journée à l'Élysée et au sortir communication d'Agnès Pannier-Runacher. Il était question évidemment de la crise énergétique.
Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
Il a des lèvres de la même couleur.
Bon, cette émission commence formidablement bien, mais ça nous laisse un petit peu plus de temps hein, pour discuter. Bon, le son, vous l'aurez compris, c'était pas ça. Mais on tentera de le rétablir un petit peu plus tard. Peut-être qu'on retrouvera Éric de Rydmaten à l'occasion de la demi-heure où on abordera précisément cette crise énergétique. Bonjour, Jonathan Sixou.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver autour de cette table, ainsi d'ailleurs que Régis Le Sommier et Benjamin Cauchy.
Bonjour.
Merci à tous les trois d'être là pour cette dernière édition de la semaine. On va commencer avec toute autre chose. Et cette question, faut-il supprimer les aides sociales et expulser des HLM les familles de délinquants mineurs? Vous me direz peut-être. La réponse est dans la question. En tout cas, c'est ce que demande aujourd'hui avec conviction le maire de Cannes, David Lisnard, après cette agression atroce qui a eu lieu dans sa commune, celle d'une femme de 89 ans. Elle a été frappée à la nuque, dépouillée par trois mineurs de 14 ans, des délinquants déjà d'ailleurs connus des services de police. Le résumé des faits, avant de commenter ensemble, Thibault Marcheteau.
C'est dans ce quartier de la Boca, à Cannes, que lundi dernier, une femme de 89 ans s'apprête à rentrer dans sa résidence. Arrivée par derrière, trois jeunes agressent cette dame âgée. Le premier lui assène un coup violent dans la nuque. La victime chute lourdement. Le second en profite pour lui dérober son sac. Et le troisième filme la scène. Ils prennent la fuite et la victime reste au sol.
C'est une agression violente qui a dû être évidemment ressentie comme telle par cette pauvre dame de 89 ans. Les individus sont jeunes, 14 ans, ce ne sont pas des primaires. En tous les cas, ils sont connus pour des larcins, ils sont connus pour des recels de vol.
Le maire de Cannes, qui a vivement réagi sur Twitter, a ensuite adressé une lettre au ministre de l'Intérieur en lui demandant la plus grande fermeté à l'égard des familles des agresseurs qui auraient tenté de couvrir les agissements d'un accusé sur la base d'un faux témoignage.
« Eu égard à la gravité de cette agression, je vous demande de tout mettre en œuvre pour que soit suspendu immédiatement le versement de toute aide sociale au profit des familles. Je souhaite également que soit prononcée l'interdiction de séjourner et de transiter sur la commune de Cannes à l'encontre des trois agresseurs. »
Il prévient également Gérald Darmanin avoir demandé l'expulsion des logements sociaux dont ces familles bénéficient. Les trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont été placés dans trois centres éducatifs fermés différents et hors du département. Ils sont convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain.
Oui, on verra d'ailleurs tout à l'heure ce que sont ces fameux centres éducatifs. Benjamin Cauchy, on va commencer avec vous. On sait que c'est une méthode déjà employée ailleurs. Ce n'est pas tout à fait nouveau, hein, ce phénomène de sanction là où ça fait mal. On se souvient notamment de ce cas des HLM niçois qui avaient fait partir une mère de famille parce que on estimait au fond qu'elle protégeait, en tout cas qu'elle couvrait un peu les activités de son fils. Et quand on regarde Twitter... Vous savez, Twitter, bon, c'est un petit peu un baromètre. On se rend compte que 93% des sondés sur Twitter sont pour ce genre de mesures. Est-ce qu'il faut en venir à ça? Est-ce qu'il faut taper là où ça fait mal? C'est-à-dire au portefeuille des familles qui, trop souvent, au minimum, sont complaisantes.
Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir distinguer deux types d'aides. Les aides qui sont distribuées par les collectivités locales. Et là, pour le coup, M. David Lisnard a cette possibilité, en tant que président du CCS de sa commune ou en tant que premier magistrat de sa commune, de pouvoir suspendre ou supprimer des aides tout ou partie à des personnes qui auraient fait des larcins ou qui auraient commis des actes de délinquance sur la commune. Après, il y a les aides qui sont distribuées cette fois-ci par l'État, par la sécurité sociale. Et là, pour le coup, aujourd'hui, il n'y a rien qui le permet clairement de pouvoir les retirer. Donc on est, encore une fois, dans un appel et d'incantation. C'est une arlésienne. Ça fait 20 ans que j'entends parler de cette histoire de suspendre, par exemple, les allocations familiales. Et puis après, ce qui concerne le logement, effectivement, moi, je serais plutôt effectivement d'avis d'extraire les familles de ces quartiers pour éviter, comment dirais-je, de... pour justement s'assurer de casser l'environnement et l'écosystème du délinquant. C'est aussi une manière à la fois de protéger les gens qui restent dans la cité, mais aussi de protéger peut-être ce délinquant qui, une fois sorti et une fois purgé sa peine, retrouvera un environnement peut-être plus propice. Donc pas d'angélisme, oui, mais le fait de les déplacer ne sont pas qu'une sanction.
Il a raison de faire un distinguo entre, parce que trop souvent on fait la confusion, entre aide sociale et allocation familiale. Ça n'a évidemment rien à voir, même si voilà, pour le symbole, de toute façon, les deux sont importants. Et peut-être qu'on en viendra aussi aux allocations familiales. Qu'en sait-on finalement un jour ? Jonathan Sixou, certains veulent aller plus loin et disent qu'il faut interdire à ces individus de séjourner et de transiter sur cette commune. C'est-à-dire, au-delà de sortir du quartier, les interdire carrément de séjour dans la commune. Vous êtes pour ?
Ça serait tout à fait envisageable et peut-être même souhaitable en fonction de la gravité des agressions, de même que ces mesures que d'éloignement d'un quartier ou casser des aides sociales diverses, voire des logements sociaux, l'attribution de logements sociaux, c'est du cas par cas. C'est vraiment dans des cas extrêmes, quand on voit que ce sont des individus qui sont dangereux pour leur environnement, quand il y a des familles dangereuses pour leur environnement, c'est aussi des situations malheureusement fréquentes. Et oui, et comme il existe dans d'autres délits, parmi les peines prononcées, l'éloignement d'une personne qui a été visée, reconnue victime, ou l'éloignement géographique d'une ville, d'une agglomération en général. Si il s'avère que de jeunes individus, on parle effectivement de gamins de 14 ans, ce qui est effrayant, ça veut dire qu'il y a une nuisance, si je puis dire, qui s'installe dans le temps. Je ne peux pas ne pas relever également dans cette agression, mais comme dans d'autres, systématiquement désormais, le fait que ces individus se filment. Il devrait y avoir une circonstance aggravante dans la peine, qui est de s'auto-relayer ainsi en s'en prenant. Oui. Enfin, il n'y a pas de nom.
Sur le fait de se rengorger finalement.
Exactement.
De ces actes, c'est de même
qu'il y a une incitation à la haine, qui est un délit et un crime reconnu. Il devrait y avoir une incitation à la violence identique, à mon sens.
Si je puis juste rajouter une phrase avant de laisser la place à Régis, c'est peut-être plus facile de suspendre des réseaux sociaux que de suspendre les allocations familiales. Et l'effet boule de neige et attractivité de leur malfait sera
c'est-à-dire peut-être que ça bien couperait, coupé. Ça les couperait net dans leur élan, d'une certaine manière.
Ça. Et ça, ils ont réussi à couper le compte Twitter de Jean Messia. Je pense qu'ils doivent pouvoir couper le compte Twitter d'un délinquant.
Jean Messia qui était là hier, justement. Régis, une petite réaction. Et puis après, on parlera de ces fameux centres éducatifs. Si c'est vraiment coercitif, qu'est-ce qu'on y apprend ? Est-ce que c'est efficace à la sortie ? Réaction d'abord sur ce qui s'est passé et sur le fait de couper ces aides à la racine.
Ce qui est intéressant, je ne vais pas faire des propos redondants par rapport à ce qui a été dit, qui est tout à fait juste. Non, ce que je remarquerais, c'est qu'il faut arriver à perturber l'individu et à perturber l'écosystème de l'individu. Ce qu'on remarque, c'est que là, on est dans une construction de la délinquance qui se fait par famille ou par clan, puisqu'il y a une volonté de dissimuler visiblement les agissements d'un des individus. Donc la famille est complice, le clan est complice. Le fait d'être expulsé de son appartement, le fait de quitter le quartier, le fait de ne plus percevoir d'aide, quelque part, on attaque l'ensemble. C'est-à-dire que le comportement d'un individu coûte aux autres. Donc là, il y a aussi une potentielle interrogation entre eux, finalement. Et il faut arriver à ce qu'on puisse établir des peines qui leur coûtent réellement. Le fait d'être un mineur aujourd'hui, on sait qu'on va en prison, oui, on ressort et on recommence. Et on n'a aucune charge ou quasiment, on n'a que du...
Donc il faut que la sanction soit autre, finalement.
Il faut aujourd'hui adapter, trouver des nouvelles formes de sanctions qui leur coûtent réellement si on veut que le manche repasse du côté de l'autorité. Parce qu'en réalité, quand on voit ce qui se passe là, il n'y a aucune raison d'agresser cette dame. Ils le font gratuitement, ils le font pour se filmer, ils le font pour faire les malins. S'ils s'aperçoivent et si la famille qui est aussi peut-être une famille qui a des activités aussi illicites, eh bien, si ces activités sont perturbées parce qu'elle ne peut plus être là, ou que tout est perturbé, ben, à ce moment-là, ça coûte réellement. Et c'est que comme ça qu'on peut arriver les maîtriser, en fait.
À les tenir, oui. Je me permets d'insister sur le fait qu'ils ont été placés dans ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés. Et puis après cette agression, Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, lui demande sur Twitter l'ouverture d'un de ces centres dans son département. Alors justement, comment ça fonctionne? Qui peut et doit y être envoyé? Regardez ce reportage, c'est Augustin Donadieu qui l'a tourné.
On en compte plus d'une cinquantaine sur tout le territoire. Les centres éducatifs fermés peuvent recevoir au maximum 12 jeunes délinquants âgés de 13 à 18 ans. Objectif, leur éviter la prison.
C'est un sas, je dirais, entre la liberté pure et simple et la prison, le centre éducatif fermé, dans lequel intervient un personnel important, environ 27 personnes pour 12 mineurs, vous voyez, avec des éducateurs spécialisés, des médecins psychologues.
Au sein de ces établissements, sous la surveillance permanente des adultes, les jeunes réapprennent les tâches de la vie quotidienne et le respect des règles de la vie en collectivité.
Si le mineur ne se soumet pas aux règles de vie, s'il ne fait pas l'effort de réinsertion, eh bien à ce moment-là, le juge en tire les conséquences et prononce une incarcération.
Cette sanction à caractère éducatif ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.
Les résultats montrent que ce travail au plus près du mineur, très individualisé, porte ses fruits. Donc c'est pour cela qu'il faut véritablement encourager la construction de ces centres éducatifs fermés pour les mineurs les plus difficiles.
Un programme de 20 nouveaux centres éducatifs fermés a été lancé en 2018. Depuis leur création en 2002, ces établissements ont accueilli près de 14 000 mineurs, soit environ 1 500 jeunes chaque année.
Alors, précision pour commencer, ils n'ont pas toujours bonne presse, ces centres éducatifs fermés. Visiblement, pour certains syndicats de police, ce n'est pas la panacée, puisque ces mêmes syndicats veulent, eux, leur mise en examen et leur placement en détention. Est-ce qu'on ne doit pas quand même, Benjamin Cauchy, vu l'âge, et même s'ils ne sont pas des enfants enfin nés de la dernière pluie, visiblement, ils n'en sont pas à leur premier méfait, est-ce qu'il ne faut pas quand même privilégier le côté « on peut encore les ramener dans le droit chemin » avant même que de sanctionner lourdement à cet âge-là?
Je ne sais pas s'il est utile de sanctionner plus lourdement des enfants de 14 ans ou de 15 ans quand ils voient que leurs aînés de 18, 20 ou 40 ans peuvent vivre en toute impunité leurs crimes et leurs délits au quotidien. Donc je crois que s'il doit y avoir un durcissement de la chaîne pénale et de la force de la sanction, elle doit être équitable et donc être présente sur tout le spectre de la délinquance. Et si on doit uniquement se focaliser sur la jeunesse, alors oui, effectivement, il va falloir mettre un coup de frein et un coup d'alerte à cette jeunesse et lui prévenir qu'il y a des règles quand on vit en société, que l'adulte n'est pas un ennemi, que l'adulte est une figure d'autorité et d'expérience, que ce soit le prof, le flic, les parents, ou l'adulte, tout simplement, une dame de 89 ans. Des gamins de 14 ans qui s'attaquent à une mémère de 89 ans. Vous imaginez un petit peu la déconnexion qu'il y a dans la notion d'autorité. Donc oui, bien sûr qu'il faudra raffermir, mais il faut raffermir pour tout le monde. Et ça, on en parle depuis malheureusement trop longtemps.
D'accord. Mais éduquer, c'est quand même important aussi à cet âge-là. Parce que tout est dans le nom. Centre éducatif, quand même.
Ouais, le problème, c'est tout le problème réside dans la façon dont ils ont vécu leur enfance, en fait. Si, on sait que les pédopsychiatres le disent assez régulièrement, y compris sur cette chaîne, que entre 0 et 3 ans, il y a beaucoup de choses qui se font, notamment du point de vue de l'acquisition de la notion d'autorité, de la sphère familiale. Si tout ça est dès le début relâché, il faut un réapprentissage et il faut que l'individu puisse s'insérer, puisse comprendre que l'avenir n'est pas dans cette société parallèle à laquelle il semble appartenir, mais dans une société normale. Et c'est tout le problème aussi, parce que je le précise, ces individus ne sont pas, c'est pas une famille isolée, c'est tout un ensemble. C'est un véritable défi qui va bien au-delà de l'individu, bien au-delà du cercle familial.
Alors, vous ne croyez pas si bien dire, vous parlez d'une certaine manière des traumatismes liés à l'enfance, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a emmagasiné, des exemples qui nous ont été prodigués ou pas, d'ailleurs. C'est précisément ce que nous disait ce représentant d'un syndicat policier, David Olivier Reverdy, qui va même jusqu'à parler, lui, de l'abandon des familles. Écoutez.
Les premiers concernés, à la base, ce sont les familles. Ce sont les familles qui ont été absentes, qui ont laissé leurs gamins errer dans la rue, qui ont laissé leurs gamins sans valeur aucune de la vie en société et de ce qui se passe. Et aujourd'hui, on en arrive à, j'allais dire, un abandon de la part de ces familles, de leurs gamins, qui sont livrés à eux-mêmes et qui font, plus que n'importe quoi, des faits extrêmement graves.
Jonathan Sixou, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. D'où l'intérêt de sanctionner aussi les familles pour leur responsabilité passée, d'une certaine manière. Et le fait que ça soit allé crescendo.
Tout commence dans le noyau familial, évidemment. Ensuite, sans contredire aucunement les propos de Régis, on peut aussi penser que si toutes les personnes qui ont une enfance malheureuse et difficile devaient à leur tour être des ennemis de la société au sens le plus large possible, on serait déjà dans une guerre civile permanente. Donc, heureusement que tous les individus, ou peut-être les moins fragiles, qui ont eu un début dans la vie des plus précaires et des plus violents, reproduisent ou produisent des faits qu'ils ont pu voir. C'est évidemment, il faut responsabiliser, mais c'est identique quand on parle des problèmes de l'éducation. On met sur le dos de l'éducation nationale tous les maux des élèves et tout. Non, ça commence à la maison, ça commence autour de la table avec les parents. Donc la responsabilité des familles est engagée. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez aussi sur le fait d'enfermer ou non des enfants de 14 ans, il faut aussi voir une chose, c'est l'évolution des violences, l'évolution de la délinquance. Un enfant de 14 ans aujourd'hui n'a pas le même profil, même physique, qu'un enfant de 14 ans il y a 40 ans. Vous voyez, et la nature des délits évolue également. Ouais. Donc il y a une adaptation, une actualisation, si je puis dire, une modernisation de notre définition de la délinquance et des mesures qu'il faut trouver pour l'enrayer.
Il y a une autre histoire que j'aimerais soumettre à votre appréciation aujourd'hui. On vous en a beaucoup parlé hier de ce cambrioleur qui s'est introduit par trois fois, au domicile de femmes du Val-de-Marne. Il les a surprises en pleine nuit. Il s'est livré à des actes sexuels. L'individu âgé de 16 ans, l'une des victimes a voulu apporter son témoignage, dire ce qu'elle avait ressenti. Petite précision avant que ceux qui découvrent peut-être cette histoire ne regardent le reportage. Tout ce que va vous décrire cette femme, en fait, au final, l'individu qui a pu être interpellé ne sera pas poursuivi pour agression sexuelle. Regardez, sujet de Solène Boulan.
Jeudi 25 août, il est 5h du matin lorsque Martine fait sa toilette. Dans le miroir de sa salle de bain, elle aperçoit un homme en train de se masturber dans le couloir. Tétanisée, Martine se met à crier. L'individu, lui, prend la fuite.
Mon cœur battait, et puis j'ai hurlé. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous savez, j'ai hurlé et on m'a expliqué que c'est mon cerveau qui était en instinct de survie. Voilà. On m'a dit que c'était normal, il était en instinct de survie.
L'homme lui dérobe son sac à main et son téléphone portable. Très choquée depuis cette agression, Martine s'est équipée de bombes au poivre pour se défendre.
La nuit, quand j'entends les bruits, je me lève et je refais toutes les pièces. Quand je suis rentrée du travail tout à l'heure, j'ouvre une fenêtre, je regarde dans les placards, je pleure beaucoup. Et voilà, quoi, j'ai gagné. Hein. Mais je vous dis, je souhaite à personne.
Lorsque Martine apprend que son agresseur, un mineur isolé en situation irrégulière, est placé sous contrôle judiciaire, elle s'effondre.
Ça veut dire qu'il est dehors. Vous êtes en train de me dire qu'il est dehors. Mais je ne comprends pas. Vous imaginez, on le laisse sortir et nous, moi on me l'a dit, ils ont peur que ça se reproduise directement. Mais ça, ceux qui l'ont lâché, ils seront responsables.
L'individu de 16 ans a été déféré pour des faits de vol, mais n'est finalement pas poursuivi pour agression sexuelle. Il sera convoqué devant la justice le 17 novembre prochain.
Voilà, c'est terrible. On sent tout le désarroi, bien sûr, de cette femme qui a été violée dans son intimité. Et c'est vrai que c'est terrible de se dire, l'agression sexuelle, pour les enquêteurs, n'est pas caractérisée, donc... A priori, pas de charge de ce côté-là. Or, on sent bien, à travers le témoignage de cette femme, que ce qui restera dans sa tête, le traumatisme le plus lourd, le plus long sans doute à digérer, ce sera précisément celui-là, et sans doute pas le vol de son portable ou de son sac à main.
Oui, mais complètement. On sent bien qu'elle est perturbée, qu'elle est choquée. Et quand on parle d'agression sexuelle, elle n'est pas forcément physique, mais en tout cas, elle cause un préjudice psychologique. Et là, il est clairement flagrant quand on regarde cette dame. On voit l'effroi aussi de cette dame lorsque, semble-t-il, le journaliste ou la journaliste l'informe de la remise en liberté de son agresseur. Je crois que ce regard, finalement, c'est le regard de millions de Français. Et là, il nous perturbe parce qu'on est toujours en train de dénoncer toute la délinquance qui pullule dans notre société. Mais là, on a le regard d'une femme complètement effrayée qui est en train de se rendre compte que la notion d'état de droit, de justice, de protection de l'innocent, telle qu'elle se décrit, et à juste titre, tombe à l'eau. Donc ça ne m'étonne pas. Ensuite, je ne vais pas tirer des conclusions hâtives. Oui. Mais quand il y a 50% de gens qui ne se déplacent plus dans les urnes, c'est aussi peut-être parce qu'ils ne croient plus en la capacité de l'État à agir pour les protéger. Et là, on en a un exemple flagrant.
Et puis, on touche du dos aussi un autre problème à travers ce cas d'espèce, hein, on peut l'appeler ainsi, Régis Le Sommier, c'est que ce jeune homme, il dit avoir 16 ans, donc il dit être mineur isolé, il a été placé sous contrôle judiciaire, donc ça veut dire en liberté, remis en liberté avec obligation sans doute de pointer au commissariat des dates données. On n'a pas pu établir sa majorité, même si les enquêteurs, a priori, avaient un doute. Et là aussi, on touche au cœur du problème en matière de justice, parce que c'est très différent, selon qu'on soit mineur isolé ou majeur, la manière dont la justice, évidemment, aborde votre cas.
Moi, j'ai l'impression que toutes les semaines, nous pose un problème, on pose un problème d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue sécuritaire. Là, clairement, moi, ce que je retiens surtout, c'est la peur de cette femme. La peur panique à l'idée de réaliser que son agresseur est à nouveau dehors et qu'il peut potentiellement vouloir se venger, revenir. Qu'est-ce qui va lui arriver? C'est toujours la même question. On a commencé cette émission avec des mineurs qui agressent une vieille dame qui vont être placés dans des centres. Là, on essaye de faire vraiment... Et les autorités se mobilisent. Mais qu'est-ce que ça va leur coûter? Et lui... il peut recommencer quelque part. Et cette femme est complètement terrorisée. Donc il y a un vrai problème. Alors ensuite, après, il y a toute la question, l'enchaînement des choses. Il est en situation régulière, il est mineur, isolé. Donc là, on est sur toute la problématique de l'immigration clandestine qu'on décrit, qui existe. Mais là, on l'a en effet, et ça je suis assez d'accord, on l'a de façon un cas qui illustre ça et qui montre que quelque part, la loi n'est pas bien faite. Puisqu'on ne peut pas laisser une personne qui a été... qui est sous le choc du sentiment d'avoir violé son intimité, sa sphère privée par un individu qui s'est introduit chez elle, et de réaliser qu'elle va rester toute seule. Parce qu'après que la journaliste sera partie, une fois que les enquêteurs sont partis, elle se retrouve toute seule.
Oui, elle n'aura pas
soir,
de sécurité particulière.
Le soir, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose. Et moi, je pense aussi aux vieilles dames et aux vieux monsieur qui vont faire leurs courses par rapport aux faits divers précédents. Quand on voit ce type d'agression, c'est quand même terrorisant quelque part. Donc on vit dans la peur. Et cette peur, ce n'est pas la peur des assassins ou des criminels de se faire prendre, c'est la peur des victimes. C'est ça qui est terrible.
Et on pourrait rajouter aussi ce couple de retraités, vous vous souvenez, qui a dû, dont la femme a eu le réflexe de sortir l'opinel pour défendre son mari déjà à terre. Et voilà, ça se produit assez souvent quand même qu'on s'en prenne aux personnes les plus vulnérables. On a l'impression qu'il y a une recrudescence du phénomène de ce côté.
Il y a une recrudescence du phénomène parce qu'il y a une recrudescence des violences et il y a une recrudescence des violences dues aux mineurs isolés qui sont de plus en plus nombreux en France et qui représentent de plus en plus... les chiffres officiels le parlent d'eux-mêmes. En l'occurrence, dans cette affaire, je suis assez marqué par, alors sauf erreur de ma part, mais vous avez entendu Sandrine Rousseau ou Clémentine Autain monter au créneau pour dénoncer cette agression sexuelle.
Moi, je n'ai pas vu de féministe.
Le fait qu'elle ne soit même pas caractérisée comme agression sexuelle avant toute chose. Souvenez-vous du silence qui avait entouré les viols quasi collectifs à Cologne, dus à des Syriens à l'époque. C'est exactement la même chose, cette cécité politique d'un point de vue d'un côté de l'échiquier, où quand c'est commis par des étrangers, ça passe sous les radars. Et il se trouve que c'est concomitant donc avec cette vague de violence due à ces mineurs dits mineurs isolés. Et je vous rappelle que c'est François Hollande qui avait laissé à la discrétion de la personne suspectée le choix ou non de se soumettre à un test osseux pour savoir si la personne en question est bien mineure, parce que c'est comme ça et uniquement comme ça qu'on peut le savoir,
déterminer. Et encore pas toujours, parce que parfois il y a un doute qui subsiste.
Il y a une fourchette, mais on peut avec une certaine certitude le déterminer. Et M. Hollande avait décidé à l'époque que c'était au mineur en question de décider de son choix.
Il faudrait pouvoir le contraindre.
Bah, revenir à la loi précédente, c'est tout.
Oui, absolument.
Mais même sur cette notion de « il a 16 ans », c'est lui qui le dit qu'il a 16 ans.
Évidemment. Oui, donc il faudrait le contraindre
à ce test scientifique. Voilà, il sait très bien aussi qu'en étant mineur,
ils ont fait le bénéfice
benchmarks, ils savent très bien que si vous cochez la case mineure, que vous cochez la case je suis d'origine afghane et que je ne suis pas en possession de mes papiers, vous avez la triple certitude de rester sur le territoire, même si vous êtes en situation irrégulière.
Et l'État français fait tout pour garder des mineurs isolés, légalement.
Oui. Oui, l'État français ne peut pas appeler les talibans pour leur demander s'il a vraiment 16 ans et s'il y a vraiment un registre là-bas qui prouve qu'il est né à telle date.
Bah, on ne sait pas s'il est afghan.
Non, mais
justement, c'est juste un exemple.
Ils savent très bien beaucoup.
Ils savent
bien
qu'il y a quelques pays.
Je sais que vous avez un tropisme pour ce pays,
mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'Afghans et il y a beaucoup de.
Là, il y a même une autre question qui se pose. C'est sera-t-il encore là même pour être.
Mais c'est ça. Quand vous nous apprenez qu'il est convoqué le 30 novembre, vous imaginez le bonhomme qui va aller le 30 novembre se pointer au tribunal. J'y crois pas.
S'il est complètement libre de ses mouvements, ou alors s'il ne craint pas effectivement la sanction dont il pourrait écoper. Ça aussi, c'est un autre aspect qu'il faut pas oublier.
Les deux, en général, il y a effectivement cette histoire d'impunité. Et là, je crois que tous les exemples que l'on donne sont criants d'impunité. Et puis la deuxième chose, effectivement, est-ce que ça va finalement, pas encore une fois, arranger le ministère de l'Intérieur, que ce soit un individu qui s'en aille et qui s'éloigne et qui part du territoire?
C'est ce que vous pensez à propos de l'image?
J'ai écouté avec attention le ministre...
C'est pas fini, cette saga, on va y revenir d'ailleurs.
Le ministre de l'Intérieur, si on en parle tout à l'heure, très bien. Mais on sent que parfois, ça peut arranger de déplacer le problème au lieu de le résoudre.
Voilà. Allez, on va s'interrompre quelques secondes, je vous rassure. Le temps de marquer une petite pause publicitaire, il en faut bien de temps en temps. Mais on reviendra pour parler de l'énergie. Parce que là aussi, il va falloir qu'on se serre peut-être la ceinture. Mais pas trop quand même. Il y aura un effort collectif. Et puis surtout, nous dit Agnès Pannier-Runacher, il y aura une solidarité européenne. Ah bon? Alors donc, on serait capable de partager des
frais. Solidarité entre
des
pays qui ont les mêmes problèmes.
Et qui sont exactement au diapason. Voilà. On verra. Je sens déjà que vous avez beaucoup de choses à nous dire de ce point de vue-là. À tout à l'heure. De retour avec vous, la deuxième partie du débat dans un instant. Avant cela, le JT, et nous avons activé tous les leviers pour passer l'hiver. C'est Agnès Pannier-Runacher qui le dit, à l'issue de ce fameux Conseil de défense, dont on va parler d'ailleurs dans un tout petit instant. Il a permis, nous dit-elle, de faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en énergie, à la fois en France, mais également ailleurs en Europe. Le gouvernement qui en appelle à la sobriété et à la solidarité. Écoutez.
La situation à laquelle nous faisons face, tous les autres pays européens la connaissent aussi. La solidarité en matière de gaz et d'électricité permet d'assurer la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Europe. Grâce à cette solidarité, par exemple, nos voisins européens ont également pu remplir leur stock de gaz. Le Conseil a plus particulièrement examiné les relations avec l'Allemagne et l'Espagne, parce que vous savez que nous avons avec ces deux pays d'importants échanges de gaz et d'électricité. Et nous avons conclu que cette solidarité réciproque devra être renforcée dès cet hiver.
Un juge d'instruction de Valenciennes a donc délivré un mandat d'arrêt européen à l'encontre de l'imam Iki Hussein, mandat pour soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Je vous rappelle que le prédicateur reste introuvable depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion du territoire français. Détail avec Jeanne Cancard depuis Lourche, dans le Nord.
Ici, l'entourage et le voisinage d'Hassan Iki Hussein ne comprennent pas cette décision et jugent disproportionné un mandat d'arrêt européen. Un membre de la famille qui habite aussi dans cette petite rue de Lourche nous explique que c'est excessif selon lui. Nous sommes ici devant le domicile de l'imam qui a été perquisitionné mardi après la validation de son expulsion par le Conseil d'État. Ça fait donc maintenant 3 jours qu'Hassan Iki Hussein est introuvable, même si en réalité cela pourrait faire déjà plusieurs semaines que l'imam avait quitté cette maison puisque les voisins avec qui nous avons échangé nous explique ne pas l'avoir vu depuis fin juillet. Sa disparition est évidemment au cœur des discussions ici dans cette petite rue de Lourche où habitait celui qui est désormais considéré comme un délinquant par le préfet des Hauts-de-France. Le prédicateur encourt jusqu'à 3 ans de prison pour s'être soustrait à son interpellation.
Enfin, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur dans l'ouest francilien. Des cambrioleurs utilisent de l'acide pour ouvrir les appartements. Nouvelle méthode redoutable, sans bruit, rapide, efficace. Reportage de Florian Paume.
C'est pendant ces vacances que Valérie a eu la mauvaise surprise de recevoir un appel lui annonçant que son appartement de la région parisienne avait été cambriolé avec une méthode bien particulière.
La porte, on pouvait l'ouvrir. Il n'y avait plus besoin de clé et puis ils ont utilisé apparemment de l'acide.
Depuis 2 mois, l'acide est le nouveau mode opératoire de certains cambrioleurs. Rien que dans le département des Hauts-de-Seine, en quelques semaines, une 40aine de cambriolages avec ce liquide corrosif a été signalé. Un matin du mois d'août, Nicole s'aperçoit que la porte de ses voisins absents
est entrouverte.
La porte, en fait, elle était brûlée à l'acide.
Et vous avez rien entendu en tant que voisin ?
Non, je n'ai rien entendu.
Et c'est justement l'un des objectifs de cette méthode. L'acide, qui fragilise la serrure, permet de l'ouvrir silencieusement et en un temps record.
Ce produit s'infiltre dans le barillet, le ressort devient souple et s'écrase. Et là, ils ont la possibilité, avec une clé ou un tournevis affûté, et puis ils forcent et ils ouvrent.
À ce stade des enquêtes, aucun individu n'a été interpellé, mais la piste d'opération coordonnée est privilégiée.
La recherche a permis aussi de relever des traces. Ces traces-là sont exploitées donc au laboratoire et sont soumises donc aux différents fichiers en France, mais également aussi à l'international pour savoir si on a affaire à une bande organisée et itinérante.
Les cambrioleurs volent principalement de l'argent liquide et des bijoux pour des préjudices allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On va retrouver à présent Éric de Rydematen. Éric de Rydematen qui va nous expliquer à quoi servait donc ce conseil de défense énergétique. Un conseil de plus pour quoi faire. En tout cas, c'est la première fois que le chef de l'État réunissait ce type de conseil sur ce thème, sur cette thématique-là. Alors que vous le savez, la France craint le blackout cet hiver. Rebonjour Éric. J'espère que le son va fonctionner cette fois. Que faut-il retenir de ce que nous a annoncé Agnès Pannier-Runacher ?
Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
Eh bien, Nelly, il faut retenir trois points. C'est clair. D'abord, un engagement. C'est le retour à la normale pour les centrales nucléaires. Vous savez qu'il y a actuellement 32 réacteurs à l'arrêt sur les 56. Eh bien, la ministre de la Transition énergétique a dit que les 56 réacteurs tourneraient cet hiver. Alors, bien sûr, il y a la question de la corrosion, la question de la maintenance. Ce sera fait, bien entendu, mais le plus urgent sera fait maintenant. Et ensuite, on fera le reste, la maintenance traditionnelle, après l'hiver. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, elle a rassuré en disant que la France avait assez de gaz. Les stocks sont maintenant à 92%, a-t-elle dit, et qu'il y a des nouveaux fournisseurs qui ont été trouvés. Troisième point, elle s'engage sur la réduction de la consommation demandée aux Français. Le chiffre de 10%, vous savez, était avancé. Là, c'est concret. D'ailleurs, les entreprises seront mises à contribution. Elles devront réduire leur consommation. Sinon, alors là, il faut le dire, si elles ne font pas les efforts, eh bien, il pourrait y avoir des délestages ou des coupures. En gros, c'est faites des efforts, sinon ce sera plus contraignant. Elle donne un exemple. Si on réduit la consommation de 7%, eh bien, ça fait 1 degré gagné. Vous inversez, 1 degré de moins dans la maison, ça fait 7% de consommation en moins. Voilà donc ce qu'elle a annoncé. Et puis enfin, ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de la solidarité européenne, réduire les prix. Donc là, c'est le marché européen, vous savez, le marché de gros. Il faut agir, il faut que les Européens se mettent autour de la table et qu'on renonce à ce que l'électricité soit calée sur le prix du gaz. Et deuxièmement, les échanges vont continuer à se faire puisque la France a beaucoup de relations avec l'Allemagne et l'Espagne. Donc on va continuer ces bonnes relations, la solidarité, la sobriété. Mais au final, je termine par là, il y a quand même un côté très rassurant de la ministre.
C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
Gauthier Lebray nous a rejoint parmi les invités qui m'accompagnent cet après-midi. Bonjour, rebonjour Gauthier, on s'est croisé aujourd'hui à la rédaction bien évidemment. Il y a un terme quand même qu'on a retenu à travers l'extrait tout à l'heure que vous avez entendu au début du journal de Agnès Pannier-Runacher. Solidarité européenne, vraiment ? Il y a une solidarité européenne en matière de gaz et d'électricité ?
À venir, c'est nouveau ? C'est ce qu'a effectivement dit la ministre de la Transition énergétique. Alors elle a parlé surtout de l'Allemagne. L'Allemagne qui est nettement plus dépendante que nous au gaz russe. Elle parlait d'échange de gaz avec l'Allemagne. Mais quand on connaît la dépendance de l'Allemagne au gaz russe qui va prendre sans doute des mesures encore plus drastiques que nous, puisque Eric l'a dit dans sa chronique, pour le moment, elle incite les entreprises à faire des efforts. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle dit aux entreprises, il n'est pas question de baisser leur production. Enfin, quand vous baissez leur consommation d'énergie, quand vous leur demandez de baisser leur consommation d'énergie, on a fait des reportages là-dessus qui ont été diffusés toute la journée, de facto, vous leur faites baisser également leur production. Donc ça sera intéressant de voir comment ça se passe. Effectivement, des échanges, à mon avis, il y aura des réunions à Bruxelles dans les prochaines semaines, des échanges avec nos voisins européens, mais quand tout le monde est dans la même panade, si j'ose dire, pardon pour cette familiarité. Donc ça va être intéressant de voir si l'Allemagne peut nous donner du gaz en étant encore plus dépendante que nous, puisque nous, on a ramené notre dépendance au gaz russe aujourd'hui à 9% de notre mix énergétique. C'était 15 ou 16% avant.
Benjamin Cauchy, vous êtes chef d'entreprise, donc vous êtes confronté aussi à ce genre de problématiques, j'imagine. Tout ça, c'est un vœu pieux, en fait, pour le résumer ainsi.
Non, le principe de solidarité européenne revient un peu comme un boomerang en fait dans la figure du gouvernement. Le journal Les Échos, il y a deux jours, titrait en fait sur le fait que les Espagnols réclamaient depuis une quinzaine d'années aux Français un raccordement entre leur gazoduc et les nôtres, de manière à importer de façon plus importante le gaz qui provient notamment d'Algérie. Depuis plusieurs années, le gouvernement français faisait lettre morte, faisait le sourd. Et en 2019, l'Espagne a acté le fait que les Français ne voulaient pas de cette connexion qui permettait justement aux Allemands de récupérer le gaz algérien. Et donc, quand on entend Madame Pannier-Runacher parler à la fois de ses amis espagnols et allemands, c'est parce que les Allemands et les Espagnols se sont mis d'accord et souhaitent que ce soit les fonds européens qui financent cette connexion au lieu que ce soit les Français. Donc c'est ça aussi dont elle parle quand elle parle de solidarité européenne.
Jonathan Sixou.
Cette solidarité européenne, souvenez-vous de l'interview du président le 14 juillet dernier, il a commencé à nous en parler dès ce moment-là. Et souvenez-vous de cet entretien qui était assez passionnant de ce point de vue-là, quand les journalistes voulaient lui poser des questions sur les conséquences directes sur le portefeuille des Français, il déviait systématiquement pour nous développer de grandes idées, très nobles au demeurant, de solidarité européenne, d'entraide entre voisins, etc., etc., sans parler des conséquences directes sur les Français et sur la facture énergétique des Français. Donc finalement, ça fait plusieurs mois qu'on n'a même pas à s'y attendre. C'est le discours public, le discours officiel. Ensuite, on n'est pas tous dans la même panade, pour reprendre les mots de Gauthier, parce que les Allemands, eux, ont eu la très bonne idée, en abandonnant le nucléaire pour sauver la planète, de se refaire tourner leur centrale à charbon. Les Italiens font de même, et les Allemands, eux, font aussi venir quand même un peu de gaz russe, et ça a posé quelques problèmes déjà cet été. L'un et l'autre n'est pas pourtant impossible d'être européen, membre de l'Union européenne, et de faire venir du gaz. Les Hongrois, depuis le début, ont dit que jamais ils ne couperaient le robinet. Ils siègent toujours à Bruxelles, me semble-t-il. Donc on s'accommode à la petite semaine, on fait peur aux Français, on va peut-être en parler, on les rassure. Finalement, on a eu très peur, on est vraiment passé à côté d'un truc effrayant, mais là, grâce à ce Conseil de défense,
tout va bien. Et on nous dit 100% du remplissage de nos stocks de gaz sont là, ça devait être fait au 1er novembre, on y est déjà.
On a 92, elle a dit 92%.
92%. Elisabeth Borne avait dit 100%. Donc déjà, il y a un petit problème entre les deux. Il va falloir se mettre au diapason. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en parlant de solidarité européenne, on a bien vu les limites que celle-ci revêtait lorsqu'il s'est agi de la crise Covid. C'est pas si ancien et on voyait bien que chacun roulait un petit peu pour soi-même. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune solidarité en la matière, que ce soit pour les commandes de masques, que ce soit pour les vaccins. L'Allemagne, précisément, qui avait pris... Donc tout ça, c'est ce que je voulais dire par vœux pieux. C'est-à-dire que on érige des concepts comme ça, comme si c'était quelque chose de qui va être acté, mais en fait, dans les faits, ça se passe pas du tout comme ça, Régis Le Sommier.
Non, et ça fait longtemps que ça se passe pas comme ça. Prenez la question du nucléaire, par exemple. Je pense que dans ce qu'a dit Agnès. Dans ce qu'a dit la ministre, il y a une chose qui me paraît importante et dans laquelle, en effet, les Français ont une carte à jouer. Et je m'en réfère à cet extrait du débat entre Nicolas Sarkozy et Nicolas Sarkozy avait merveilleusement résumé la spécificité du nucléaire français et le fait que nous, on a rien, on n'a pas de gaz, on n'a pas de ressources, on n'a pas de pétrole, etc. Mais on a eu cette orientation nucléaire et le fait de savoir que les 56 centrales vont être remises tout en marche, aujourd'hui il y en a la moitié seulement qui fonctionne, le fait qu'on va réinvestir, je l'espère, sur des technologies nucléaires parce qu'on avait arrêté pour des questions justement pour essayer de séduire les écologistes, on avait arrêté justement toutes ces performances et cette spécificité qui faisait que dans notre mix énergétique on était à 75% l'électricité était à 75% d'origine nucléaire. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu comme les autres, c'est-à-dire que les Italiens, eux, ils ont trouvé un accord pour leur gaz avec l'Algérie. Les Espagnols, ils essayent aussi de mener leur barque.
Du coup, il n'y avait plus d'accord possible pour nous, on est arrivé trop tard. Hein. Donc, non, oui, vous vous souvenez de la visite d'Emmanuel Macron il y a quelques jours.
Et puis il y avait nos problèmes avec l'Algérie qui n'ont pas comment améliorer les choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle toujours de solidarité européenne, on parle toujours de « oui, on va faire les choses » parce qu'on a eu l'impression que pour cette crise ukrainienne, au début, on a décidé ensemble de prendre les sanctions, etc. La question, c'est qu'à l'époque, qui avait prévu que ça, qu'on se retrouverait tous dans cette situation ? Quand on y réfléchit, c'était quand même possible que, vu les sanctions, vu l'ampleur des sanctions appliquées à la Russie, que la Russie réagisse en coupant le gaz.
Ah mais pardon, mais en mars, Bruno Le Maire nous a dit, on a passé l'extrait hier, on va mettre l'économie russe à plat. Oui, hein, il n'en a rien été.
Aujourd'hui, on est en train d'expliquer aux Français comment faire des économies d'énergie.
Encore un mot là-dessus, voilà. Gauthier, oui, avant de revenir au Conseil de défense.
Sur les sanctions, on l'a vu en milieu de semaine, ça a été chroniqué sur différentes antennes, la Russie est véritablement sous le cash, puisque les sanctions ont fait augmenter les prix de mémoire plus de 40% depuis la mise en place de ces sanctions, et je crois que c'est 97 milliards d'euros récoltés par la Russie. Alors sur le nucléaire, on voit bien qu'il y a un bras de fer entre ce qui reste donc de la direction d'EDF, qui a amené à quitter ses fonctions, on le sait. Donc maintenant, le PDG d'EDF est très libre dans ses propos. Effectivement, la moitié des réacteurs français à l'arrêt. Donc Elisabeth Borne tient pour responsable la direction d'EDF, qui lui répond bah « Non, c'est vous qui nous avez dit qu'il faut fermer 14 réacteurs ». Le président de la République a dit qu'il faut fermer 14 réacteurs. On en a fermé deux, vous le savez, avec Fessenheim. Du coup, on a embauché des ingénieurs qui sont spécialisés dans le démantèlement de centrales et pas ceux qui sont soit spécialisés pour en construire avec les mini-centrales que veut construire le président de la République,
ou
soit
faire la maintenance de ce
exactement, avec notamment des problèmes de corrosion.
Des États-Unis, hein,
voilà, c'est ce qu'a dit le PDG Lévy de l'EDF.
Alors, un mot quand même sur ce fameux huis clos, l'exercice même et le propos même de ce Conseil de défense. On se souvenait que la méthode, soi-disant, était éprouvée, mais qu'on n'allait pas renouveler, que dans ce quinquennat, on allait tout changer et aborder les choses différemment. Le Parlement s'en est ému, on l'a vu hier avec des différentes formations politiques, au premier rang desquelles Marine Le Pen, hein, pour le RN. Les syndicats non plus ne comprennent pas. Écoutez Laurent Berger, puis je vous fais réagir.
Je crois qu'il va falloir qu'on sorte à un moment donné de la gestion d'un certain nombre de situations de crise par des conseils de défense. Ce dont il est question, c'est de passer le cap de la crise énergétique qui est potentiellement devant nous, enfin qui est déjà un peu là et qui peut avoir des conséquences très concrètes pour l'économie, pour les citoyens dans les mois à venir, et qu'il y a beaucoup de décisions qui nécessiteront d'être délibérées, d'être concertées, d'être partagées. On demande on parle de sobriété, notamment dans les entreprises. Moi je demande que les travailleurs, les représentants des salariés soient associés aux discussions.
Alors, la méthode. Discours de la méthode. Pourquoi on reconvoque un exercice dont on sait qu'il n'a pas bonne presse, qu'il n'est pas très bien perçu de la part des oppositions ?
A pris goût au Conseil de défense après deux années de crise Covid. Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est très critiqué par l'opposition. Marine Le Pen a fait une lettre à Elisabeth Borne lui demandant un débat au Parlement, puisque le Parlement ne reprend vie qu'en octobre prochain. Donc elle a demandé effectivement une session extraordinaire pour pouvoir débattre de ce qu'on est en train de dire. Mais il y a un vrai parallèle, c'est vrai, à faire avec le Covid, puisque c'est déjà le même mode de fonctionnement là aujourd'hui. Il y a ensuite, on l'a vu dans différents reportages, le chômage partiel qui est mis en place dans différentes entreprises qui, contrairement à ce qu'a dit la ministre de la Transition énergétique, décident de baisser leur niveau de production pour baisser leur énergie. Donc c'est effectivement intéressant. La seule chose que le gouvernement veut éviter de faire, mais il va être forcé de le faire, c'est le quoi qu'il en coûte. Un quoi qu'il en coûte énergétique, comme il y a eu un quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Ça commence à être chiffré. Si le bouclier tarifaire dépasse 2023 et donc est prolongé pour bloquer les prix et reconduit, ça pourrait coûter 50 milliards d'euros à l'État français. Et c'est donc très compliqué pour le gouvernement qui a pris entre deux feux. D'un côté, empêcher la hausse des prix, parce que sinon vous allez quoi ? Vous allez avoir ce qui se passe au Royaume-Uni. Grève, manifestation, appel à la désobéissance civile et à ne plus payer ses factures, puisqu'au Royaume-Uni, les prix ont augmenté de 80% en l'espace de quelques mois, quelques semaines. En Belgique, on commence à voir que la note pourrait atteindre les 8000 euros par ménage et par an. Donc effectivement,
donc à un moment,
on a un ancien représentant des Gilets jaunes sur notre plateau. Il pourrait y avoir un mouvement Gilets jaunes XXL.
On va acheter la paix sociale, mais ça va marcher à ce prix-là ? C'est comme ça qu'on va s'en sortir ou...
On pourrait dire que les 50 milliards, effectivement, c'est encore un chèque et qui ne résout pas véritablement le problème de fond et que ça va creuser la dette. Mais j'ai envie de dire aussi, si on ne met pas ces 50 milliards d'euros sur la table... Qu'est-ce que l'État risque de perdre en recettes fiscale, en recettes de TVA, quel va être le nombre de dizaines ou de centaines de milliers de chômeurs qui vont arriver sur le marché. Donc on est toujours en train de regarder le prisme en disant « mon Dieu, c'est une dépense supplémentaire », mais je crois que les conséquences de l'absence de cette prime supplémentaire, de cette dépense supplémentaire de 50 milliards, auraient des effets beaucoup plus dévastateurs. Donc je ne suis pas persuadé qu'ils soient encore dans le délire du « quoi qu'il en coûte », il a compris que ça ne fonctionnait pas. Et puis enfin, si je puis me permettre, le Conseil de défense, effectivement, est quelque chose de très cosmétique. On s'attendait à minima à des décisions importantes suite à un conseil de défense. On pense tout de suite à des enjeux stratégiques, géopolitiques. Et on se retrouve finalement avec un réchauffé de mesures qui ont déjà été distillées par entrefilet ou par
Twitter. Oui, mais pardon, mais si on avait pris...
Donc ça n'a aucun sens.
Je suis obligée de me faire l'avocat du diable. Si on avait pris des mesures drastiques en disant on va aller plus loin, on va faire ça, vous auriez été le premier à dire... Ah ben on prend des décisions dans notre dos sans en référer aux différentes formations.
De toute façon, il prendra la mesure dans notre dos. Ça, c'est clair et net. Donc après, c'est une question d'habillage. Mais si vous voulez, le fait d'avoir l'argument soit géopolitique, diplomatique ou stratégique de défense militaire pouvait s'entendre sur le fait que tous les parlementaires et les organisations syndicales ne soient pas mis au parfum. Bon, M. Berger dit qu'il faut que les salariés soient associés à la baisse de la facture électrique. Bon.
Régis Le Sommier, il y a quand même, on entend un petit peu cette petite musique chez beaucoup de Français maintenant de dire, au fond, le prix à payer, le prix de la liberté et le prix de la démocratie chez les autres et du soutien d'un modèle démocratique tel qu'on l'a voulu, enfin tel que le voulaient les Ukrainiens, il commence à être un petit peu lourd à payer. On commence à se rendre compte que finalement, ça va très très loin cette histoire. Ça vous surprend ?
Moi, ce qui me surprend, c'est le peu de discernement à l'époque. Ce qui me surprend vraiment, c'est de s'être embarqué, non pas dans une réaction en faveur de l'Ukraine, ça l'était tout à fait légitime, il s'agit d'un pays souverain, agressé par un autre pays, et dans ce positionnement, il y avait en plus une forme d'équilibre, puisque même si la France soutenait, Emmanuel Macron maintenait une ligne avec Moscou, et il en faisait grande publicité, il en fait toujours grande publicité. Donc il y avait une idée que la France pouvait jouer un rôle, qu'elle appuyait l'Ukraine, mais qu'elle était aussi dans le solutionnement de ce conflit, ou la tentative de le faire. Bon, on vient de passer 6 mois de conflit, un conflit qui est de plus en plus abominable, il a toujours été, mais là, on est dans une situation où on est à peu près à 600 Ukrainiens qui meurent par jour sur le front de Kherson au sud. Donc c'est quand même une situation extrêmement critique. Et le front du Donbass est toujours très, très actif. Mais ce qui m'a vraiment... quand on est dans une situation comme ça, on dit souvent « gouverner, c'est prévoir ». Il me semble qu'à chaque fois, dans tous les domaines, on se retrouve mis au pied du mur, c'est-à-dire obligé de faire un conseil de défense sur l'énergie, comme si cette donne de l'énergie n'était pas prévisible au début de l'été. Ouais. C'était le même cas pour la question des profs dans l'éducation nationale. Pourquoi en plein mois d'août, on découvre qu'à la rentrée, donc dans une semaine ou deux, il n'y a pas assez de profs sur la question de l'hôpital. Souvenez-vous, les mesures flash adoptées pour éviter que les urgences ne ferment pendant l'été.
On a peut-être été un peu sonné aussi. Alors, la recomposition à l'Assemblée, souvenez-vous. Une nouvelle recomposition démocratique.
Oui, mais
aussi.
Cette recomposition démocratique, pardonnez-moi, elle a fonctionné. On s'est aperçu que malgré les antagonismes de cette Assemblée, malgré tous les noms d'oiseaux et les bizarreries qu'on a pu y voir, ont été adoptés quand même un certain nombre de plans. Ça a fonctionné. Et là, on revient en effet avec une manière de fonctionner qui est en catimini, avec un conseil de défense, en profitant peut-être de l'absence du Parlement et du fait que...
En faisant fi, voilà, de la nouvelle donne aussi parlementaire.
Quelque part aussi, on peut dire que à décharge d'Emmanuel Macron, il faut agir maintenant. Mais on aurait pu prévoir ça largement avant, comme on aurait pu, et c'est mon point principal, prévoir, anticiper. Il n'y a pas un ministre autour de la table qui a dit « Attention, mais si on ferme ça, Poutine, il va nous fermer le gaz. Ouais. Et s'il nous ferme le gaz, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, on aurait pu anticiper que... Tout ce qu'on a pris comme décision en termes de politique énergétique depuis les 10 dernières années, allez se retourner contre nous.
Ok, un sondage Odoxa pour le Figaro avec cette question. Vous, personnellement, avez-vous confiance dans l'action d'Emmanuel Macron et du gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat face à cette hausse? Donc, regardez, les Français répondent non à 60%, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confiance à 60%. Jonathan Sixou, ok, ils n'ont pas confiance. On s'en serait un petit peu douté, hein, parce que généralement, quand on touche au portefeuille, on est un petit peu stressé. Mais quand même, ce n'est pas écrasant non plus, 60%. On n'est pas sur du 80-20.
Non, mais parce que Emmanuel Macron a gagné les élections présidentielles, dois-je vous le rappeler. Le parti d'Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, mais a quand même la majorité à l'Assemblée nationale. Les Français le suivent encore Emmanuel Macron, bien que 60%, c'est évidemment une majorité très nette, qui ne lui font pas confiance. Mais comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui vous dit une chose et son contraire systématiquement et depuis toujours ? Comment faire confiance en matière énergétique à quelqu'un qui vous a expliqué pendant des années que l'avenir de notre énergie passait par le démantèlement du nucléaire et qui aujourd'hui vous dit que l'avenir énergétique français ne passe que par le nucléaire ? Comment faire confiance à quelqu'un qui vous dit le lundi, et ce n'est pas une expression, c'est la fin de l'abondance et les Français sont anxieux, et le mardi qui vous dit il y a de quoi être optimiste ? C'est vraiment incompréhensible. Et c'est vrai que 60%, ça paraît assez peu. Mais il est à noter aussi que cette stratégie macronienne de faire appel à ses conseils de défense le met déjà en chef de guerre. Ça fait toujours bien de se poser en chef de guerre. Mais ça a aussi comme risque, et ça c'est une commission du Sénat qui est quand même sage en la matière, qui pointait le déséquilibre des institutions que cela représentait, que de faire appel trop souvent à des conseils de défense. C'était le cas. Ça avait été pointé par le Sénat au moment du Covid. Maintenant qu'on dépasse sur le domaine énergétique, c'est encore autre chose et ça ne va que dans ce sens-là. Oui.
Ils se sont ragaillardis finalement par ces sondages qui ne sont pas si défavorables au fond pour convoquer précisément ce genre de conseil. Ils se disent bon, finalement.
Je suis pas sûr que ce soit le sondage qui ait fait que Emmanuel Macron convoque un conseil de défense.
Non, mais bon, il sait bien qu'il a été réélu, qu'on lui a donné quitus pour la suite.
C'est comme ça qu'il a fait pour le Covid. Il voit une nouvelle crise. Alors Olivier Véran a dit, c'est parce que
qu'il a une majorité relative et que les choses sont très compliquées pour lui à l'Assemblée nationale.
Et Olivier Véran a dit que c'est parce qu'il y a secrets d'État, de sécurité intérieure qu'on peut pas dévoiler comme ça et que c'est pour ces raisons-là, avec la guerre en Ukraine, qu'il a besoin de faire un conseil de défense. Mais sur la catégorie double discours, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est les ministres qui disent tout et leur contraire. Effectivement, quand Emmanuel Macron parle de fin de l'abondance, Olivier Véran fait ensuite l'explication de texte en disant « Vous n'avez rien compris, il est ultra optimiste, le président, ce n'était pas du tout un discours pessimiste, vous n'avez rien compris. » Et ensuite, il dit « Les entreprises pourront tourner à plein régime, etc. » Et quelques jours après, on apprend que c'est les entreprises qui vont être les premières à déguster.
Non, mais là, c'est pareil, pour compléter, Elisabeth Borne nous dit finalement sur France Inter hier « la facture d'électricité va augmenter de façon substantielle. »
Et
là, on nous dit « Finalement, ça va très bien se passer. »
Un dernier exemple, en milieu de semaine, Emmanuelle Wargon, vous savez qu'elle était ministre, elle a été battue aux législatives. Du coup, elle a été recasée comme présidente de la commission de régulation de l'énergie. Elle nous dit, si on n'a plus de gaz russe, pas grave, c'est 9%, on peut très bien s'en passer. Alors qu'on fait un feuilleton depuis 15 jours en disant que si Gazprom nous coupe le gaz, Elisabeth, c'est la catastrophe, il y aura des restrictions. Donc on n'y comprend plus rien.
C'est vrai qu'on y perd un petit peu son latin et c'est pas de nature à rassurer les Français. Mais d'où l'étonnement
Gazprom qui, au passage, a dégagé 41,6 milliards d'euros de marge depuis les 6 premiers mois. C'est le record historique pour Gazprom et c'est l'équivalent du budget de la défense française. Voilà.
Il est à se demander aussi jusqu'à quand le chef de l'État va pouvoir contourner le Parlement de cette façon-là.
Ah bah pas très longtemps, puisqu'il va revenir. Ah voilà, dans un mois pile. Benjamin Cauchy, pour la dernière réponse.
Les Français sont inquiets. J'ai parlé un petit peu des chefs d'entreprise qui sont inquiets parce que les chefs d'entreprise passent des contrats triennaux pour leur consommation d'énergie. Et là, il y a plus de la moitié, par exemple, des distributeurs de la grande distribution, y compris des petits magasins, qui doivent renouveler leur contrat d'énergie pour la fin de l'année. Je vous dis ça pourquoi ? C'est-à-dire que tous les éléments de langage qui sont distillés par Mme Pannier-Runacher, Véran ou autres, sont là aussi pour tenter d'apaiser les tensions sur le marché. Et le fait de dire aux Français, finalement, ça va bien se passer, comme dirait l'autre, ça permet de décrisper un petit peu et de détendre le coup sur les marchés, parce qu'ils sont clairement en train de renégocier les contrats. Le patron de Lidl France, on va le citer, puisqu'il était invité hier sur une chaîne Echo, il expliquait que pour un magasin moyen, la note mensuelle allait passer de 5 000 à 15 000 euros. Voilà. Donc, vous mettez ça à l'échelle d'un artisan plombier.
Marges que dégagent les grandes enseignes et les artisans, ce ne sera pas le même ratio.
Cet exemple était flagrant puisque c'est un x3. Mais ce x3, vous le mettez en exergue sur un artisan, il va y avoir véritablement des difficultés. Donc, les Français peuvent être inquiets de leur pouvoir d'achat, mais je crois qu'ils peuvent être aussi inquiets de leur emploi. C'est ça le risque.
Un dernier mot en guise de précision, très vite.
Y a des initiatives qui ont déjà commencé à l'échelle des régions ou des villes. Par exemple, en Bretagne, maintenant, pas plus de 19 degrés dans les classes des enfants, à Lille. eh bien, il n'y aura plus d'éclairage nocturne des grands bâtiments, hormis sur la place principale. Donc il y a des choses comme ça, des piscines qui vont fermer.
19 en Bretagne, on
peut... c'est beaucoup, c'est chaud. Hein, 19
oui, mais c'est quand même une mesure.
C'est à 17 carrément.
Je suis breton en plus, donc vous savez, je connais l'eau bretonne, effectivement, elle est fraîche, ils ont l'habitude d'avoir froid, mais bon.
Et rarement à 19.
Ils vont ouvrir les fenêtres à 19.
On vous laisse la Bretagne. Ah ouais. Hein, bon hiver en Bretagne. Bon, allez, on s'interrompt plus sérieusement en quelques secondes. On reparlera du sort de cet imam qui a disparu dans la nature, vous le savez, mais désormais. Dans la saga de l'imam Iki Hussein, il y a une nouvelle donne, c'est qu'un mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre. On en parle juste après la pause. De retour avec vous pour la toute dernière partie de l'émission de ce vendredi. Ce sera juste après le flash. C'est avec Isabelle Piboulot.
Une femme de 89 ans agressée à Cannes par trois mineurs lundi dernier. L'octogénaire a été frappé au visage et dépouillé de son sac pendant qu'un des agresseurs filmait la scène. Le maire de Cannes réclame leur expulsion des logements sociaux et une interdiction de demeurer ou transiter dans la ville. Les trois adolescents seront convoqués au tribunal des enfants le 30 novembre prochain. L'Argentine sous le choc après un attentat manqué hier contre Cristina Kirchner. Le suspect a été arrêté. La vice-présidente a été visée par un homme armé d'un pistolet en bas de son domicile de Buenos Aires. Des centaines de militants s'y rassemblent chaque soir depuis 11 jours pour marquer leur soutien à l'ex-chef de l'État, actuellement en procès pour fraude et corruption pendant sa présidence de 2007 à 2015. Artemis paraît au décollage vers la Lune demain. Les prévisions météo sont encourageantes pour le départ de la nouvelle fusée de la NASA en Floride. Les problèmes techniques de ce début de semaine sont résolus. Pour rappel, la mission Artemis 1 est un vol test sans équipage à bord, avec pour objectif ultime rejoindre la planète Mars d'ici quelques années.
Merci beaucoup Isabelle et à tout à l'heure sur notre antenne. Jonathan Sixou est là, Régis Le Sommier, Benjamin Cauchy pour commenter l'actualité de cette fin de semaine. On va évidemment continuer avec ce feuilleton, puisque ça fait quand même plus d'un mois que ça dure, cette histoire. L'imam Hassan Iki Hussein est toujours introuvable hein, depuis mardi, depuis la validation par le Conseil d'État de son expulsion du territoire français, mais il a pris la tangente lui-même. Fiasco, donc on le rappelle, pour Gérald Darmanin, qui a bien tenté de se justifier hier. Mais entre-temps, on a appris qu'il y avait un mandat d'arrêt européen qui avait été délivré contre lui. Il est lancé avec le motif suivant, soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Donc c'est en réponse évidemment à ce qu'avait décidé le Conseil d'État français. Jeanne Cancard est allée dans cette ville d'où il a disparu, Lourche, dans le Nord. C'est le domicile de l'imam. Elle est allée recueillir quelques témoignages sur place. Écoutez.
Ici, l'entourage et le voisinage d'Hassan Iki Hussein ne comprennent pas cette décision. Ils jugent disproportionné un mandat d'arrêt européen. Un membre de la famille qui habite aussi dans cette petite rue de Lourche nous explique que c'est excessif selon lui. Nous sommes ici devant le domicile de l'imam qui a été perquisitionné mardi après la validation de son expulsion par le Conseil d'État. Ça fait donc maintenant 3 jours qu'Hassan Iki Hussein est introuvable, même si en réalité cela pourrait faire déjà plusieurs semaines que l'imam avait quitté cette maison, puisque les voisins avec qui nous avons échangé nous explique ne pas l'avoir vu depuis fin juillet. Sa disparition est évidemment au cœur des discussions ici dans cette petite rue de Lourche où habitait celui qui est désormais considéré comme un délinquant par le préfet des Hauts-de-France. Le prédicateur encourt jusqu'à 3 ans de prison pour s'être soustrait à son interpellation.
Bon, Jonathan Sixou, ça en fait donc désormais un fugitif. Hein, jusqu'à ce matin, en fait, il n'était pas considéré comme tel. On disait même, bon, bah, finalement, il a quitté le territoire français, bon débarras. Maintenant, ça devient un petit peu plus sérieux. Lui qui se jouait un peu des lois du système, ça peut se retourner contre lui.
Ça prouve en tout cas que cet individu est indésirable sur le territoire européen et que la Belgique ou un autre de nos voisins lui accordera un accueil favorable. J'entendais ce que nous rapportait Jeanne Cancard des propos des voisins qui s'alarment du fait que ce soit disproportionné, excessif, etc. Non, la vraie question, c'est est-ce que ce sera efficace ou pas ? Est-ce que les Européens seront plus efficaces que l'a été la France ? Là, c'est toute la question. Est-ce que cet homme pourra faire le même pied de nez aux polices européennes telles qu'il a pu le faire aux autorités françaises ? Là, ce sera un sérieux coup. Oui. Mais je pense que la vraie question qu'il y a à se poser aujourd'hui, c'est est-il capable, est-ce possible de rester en cavale comme ça quand il y a un mandat d'arrêt européen.
se mettront-ils à sa recherche aussi intensément qu'avançait Gérald Darmanin pour ce qui était de la France, ça, rien n'est moins sûr, Benjamin Cauchy.
Oui, alors moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse le retrouver parce que le prix d'un faux passeport, Régis, je ne dis pas que vous en vendez. Hein, c'est pas ça.
Pourquoi ? Mais alors, je ne comprends pas du tout pourquoi vous tournez vers lui pour ça.
Non, mais parce que vous connaissez sur les opérations de guerre que bon, les faux papiers, ça existe. Ben, voilà, en Europe aussi, ça existe, les faux papiers. Donc, je pense que se refaire une virginité, sous forme de papier sera relativement aisé. J'étais surpris par les propos de Gérald Darmanin hier sur l'antenne de CNews, expliquant que finalement, il avait eu gain de cause auprès du Conseil d'État et qu'effectivement, cet imam devait être expulsé, que l'État de droit avait joué son rôle. Ça, on peut effectivement tous s'accorder avec lui. Et en revanche, sur le fait de constater l'éloignement, il dit qu'il n'avait aucune capacité à pouvoir le contraindre à résidence avant, puisque ce n'était pas du pénal, mais du civil, me semble-t-il. Oui. C'est ça. Pardon, de l'administratif, mais ce n'était pas du pénal. Et c'était le cas.
Vous ne pouvez pas le faire.
Non. Après, il a bien expliqué aussi à Pascal Praud, si vous avez écouté l'interview, que le ministre de l'Intérieur n'avait pas tout expliqué à Pascal Praud. Ça veut dire aussi que sans doute les services de renseignement savent très bien où il est, mais qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire où il est. Donc, il y a un mandat d'arrêt européen, tant mieux. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est de la part de M. Darmanin de dire, écoutez, il est parti, c'était l'objectif. C'est un petit peu facile de mettre la miette sous le paillasson. Là, c'est une baguette de pain sous le paillasson.
Et puis maintenant,
débrouillez-vous, quoi.
C'est pire. Il a dit l'islam radical est en fuite.
Oui, enfin, voilà.
Surtout, ce rebondissement vient donner tort, d'une certaine manière, à Gérald Darmanin, puisque le mandat d'arrêt européen, ça veut dire que vraiment, il faut retrouver cet individu et ne pas le laisser
pour un éloignement avec 3 ans maximum. Hein, s'il se fait serrer, c'est 3 ans d'éloignement. Alors, si c'est 3 ans d'éloignement, dont 1 avec sursis, c'est un bracelet électronique.
Régis Le Sommier.
Non, je crois que
on peut aller loin dans
cette histoire, il y a vraiment c'est une déconvenue pour l'État français et pour le ministre qui en avait fait quand même un symbole. Alors attention à ne pas trop surexploiter le symbole, mais en tout état de cause, c'est les fondements d'une politique à venir vis-à-vis de l'islam radical et en tout cas vis-à-vis de ces prédicateurs de haine. Ces prédicateurs de haine, on sait, ils sont nombreux. Si on ne commence pas par un qui peut faire jurisprudence pour qu'ensuite il y en ait d'autres et que quelque part on arrive à s'entendre avec l'islam de France, parce que c'est ça aussi. Oui. La plupart de ces prédicateurs sont venus de pays tiers avec des doctrines islamistes particulières qui n'étaient pas sous la coupe de l'État français en fait finalement et ils ont intoxiqué une grande partie de la jeunesse, et on sait que celui-là en particulier a sur sa chaîne YouTube a diffusé ses propos, qu'il était extrêmement suivi et qu'il contribue à instiller le ferment de la radicalité chez les jeunes en particulier. Donc il représente un danger, et en plus dans leur discours, et c'est ça où le scandale le plus grand dans l'histoire de l'imam Iqiyoussem, c'est que sur plusieurs dizaines d'années, il a égrené des propos qui étaient condamnables pour la justice. Or, il n'a jamais été inquiété. Il a coché toutes les cases. Contre les femmes, homophobie, antisémitisme, enfin, il y a vraiment toute la palette.
Tout le spectre,
d'ailleurs, je me demande ce que les enquêteurs vont bien perquisitionner chez lui, à part peut-être pour essayer de trouver de repérer s'il s'y trouve, parce que dans ses prêches, il y a tout. Donc il n'y a pas besoin de plus. Alors voilà, moi je crois que le problème auquel est confronté le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que cet imam, effectivement, rejoigne le Maroc, qu'il soit expulsé, qu'il soit traité par les autorités marocaines. Et on sait qu'il y a un petit peu...
Voilà. Alors justement, ça quand même, ça nous permet, il faut le redire, pour ceux qui n'ont pas suivi tout le développement de cette histoire cette semaine. Entre-temps, le fameux laissez-passer consulaire, il a été... suspendu par le Maroc.
Il pourrait être au travail.
60 jours, oui.
On en croit ce que nous a dit Gérard.
Enfin, c'est quand même aussi, là on parlait de pied de nez, c'est aussi un pied de nez d'État à État.
Ça, c'est un pied de nez qui dure depuis beaucoup trop longtemps, et pas uniquement avec le Maroc. Et c'est une humiliation de la France qui est quasi permanente, avec ce chantage qui est imposé aux autorités françaises, ces chantages au laissez-passer consulaire. Souvenez-vous qu'à la faveur du déplacement d'Emmanuel Macron à Alger, Gérald Darmanin s'est vanté d'avoir pu expulser 300 Algériens qui avaient commis des délits en France et qui n'avaient que la nationalité algérienne. Ils sont 7700 actuellement à attendre le même sort chez nous. L'Algérie ne leur octroie pas 7700 laissez-passer consulaires. Le Maroc c'est plus souple, je dirais. Il y a on parlait tout à l'heure des mineurs isolés. Il y a quelques années, le Maroc avait voulu récupérer ces mineurs isolés. C'est des associations françaises qui l'en avaient
empêché. Qui avaient lutté pour contre.
C'est du cas par cas, mais on voit qu'il y a une politique de chantage à notre endroit
Plus les relations entre le Maroc et l'Algérie.
Oui, ça c'est encore à mettre aussi dans la balance. Oui. Oui. Mais cette idée, ce chantage permanent aux clandestins et aux illégaux...
Ça c'est insupportable.
C'est insupportable et la France a les moyens d'inverser la tendance pour autant.
Il y a, c'est vrai, mais on n'a pas encore trouvé la parade totale. Il y a aussi d'une certaine manière, et je voulais vous faire réagir aussi sur cet aspect qu'on a un petit peu abordé hier, ça alimente le mythe aussi auprès de ses soutiens. On se dit, il s'est fait la belle, il s'est réduit le système. Ça fait de lui, d'une certaine manière, une star. Est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif d'avoir autant parlé de cette cavale? Parce qu'il faut bien l'appeler ainsi maintenant.
Disons que la culture du martyr, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Et surtout des jeunes qui sont en perte de sens, de quête de sens. Il y avait les Marvel dans les années 80, 90. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais aujourd'hui, on a les imams, on a les prêcheurs de haine. Donc moi, je viendrai sur cette question-là. Effectivement, il faut couper cette starisation. Et du coup, l'expulsion territoriale, elle doit se faire physiquement, mais elle doit se faire virtuellement. J'insiste sur ce sujet-là. Mais depuis la Belgique ou même le Maroc, ce prêcheur de haine, cet imam, pourra toujours communiquer sur YouTube. Donc quel est finalement le territoire sur lequel il est le plus dangereux? Est-ce que c'en étant à Lourche, avec ses femmes et ses enfants? Je ne dis pas qu'il faut qu'il revienne. Moi, je dirais qu'il faut qu'il rentre au Maroc. Mais s'il rentre au Maroc, qu'on soit sûr qu'il ne continue pas à distiller sa haine sur les réseaux sociaux. Et là, le petit gamin de Lourche qui habite à côté pourra toujours l'entendre.
Bientôt, on le trouvera peut-être dans le métavers. Vous savez, c'est le nouveau concept à la mode. Le monde virtuel.
Après. Non, mais il est clair que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui sait parfaitement jouer justement de ce qui est sur les réseaux sociaux, de distiller au compte-gouttes ses prêches et d'arriver à échapper justement au terrorisme, qualification de terrorisme qui permettrait d'introduire, d'abroger le compte et en tout cas d'intenter une action contre lui. Donc évidemment, il va essayer de jouer de tout ce qui est à sa disposition. On est quand même étonné parce que d'avoir tant de, quand on voit que le ministre de l'Intérieur a tant de difficultés à expulser un imam comme ça, qui, à son âge de 18 ans, a même refusé la nationalité française. Ouais. C'est quand même assez incroyable que quelqu'un qui n'aime pas nos valeurs, n'arrive pas à le faire partir de France.
J'aimerais quand même, il nous reste quelques minutes, l'actualité a été dense, a été un peu lourde. Cette semaine, on va changer de thème. On est vendredi, donc je me suis dit que voilà, il y avait un petit phénomène qu'on a observé. Vous savez, pendant 2 ans, elle a été totalement exclue de nos, rapports. Je sais pas, mais de nos interactions sociales, on va dire.
Qu'est-ce que vous allez nous dire?
Sourire, pas du tout. Non, mais franchement.
C'est le week-end.
C'est la bise. Eh oui. Elle fait désormais son grand retour. Certains sont très contents de se faire la bise à nouveau. D'autres s'en passeraient volontiers. Alors vous, est-ce que vous en réjouissez? On vous a posé la question.
Refaire la bise ou pas, sur les quais à Bordeaux, les passants sont partagés.
Déjà que j'étais pas très fan de base, autant vous dire que le Covid, pour le coup, ça a été une bonne excuse. Même encore aujourd'hui, moi, je fais plus du tout la bise.
Moins, je dirais. Beaucoup moins. Oui. Même pour serrer la main, on utilise plutôt le poing. Le réflexe est pris.
Moi, je refais la bise à la plupart des personnes que je connais, parce que ça ne me dérange pas, et voilà quoi.
Chez cet artisan pâtissier, les masques sont aussi tombés. Mais le matin, entre collègues, fini la bise.
Plus du tout, parce que avec le Covid, on n'a plus les masques, donc c'est un peu fini. Mais on se fait des petits boops, comme ça. Et sinon, c'est un petit bonjour, comme ça, avec un grand sourire, ça passe toujours.
A l'inverse, dans cette association de musique du Médoc, les membres se connaissent pour certains depuis très longtemps, et sont contents de pouvoir enfin se refaire la bise.
C'est quelque chose qui nous a manqué pendant pas mal de temps durant la crise, et ça fait du bien de pouvoir avoir des rapports humains, normaux, et en particulier dans une école de musique où en général les musiciens se font la bise, donc c'est d'autant plus plaisant.
Le fait qu'on ait arrêté avec la bise avec le Covid fait que maintenant on refait la bise que aux gens à qui on a envie de la faire, et c'est plus un caractère obligatoire. Ce petit geste d'affection, mais qu'on faisait, qui était banalisé comme ça tout le monde, et ben là on le retrouve vraiment.
Pour beaucoup de ceux que nous avons rencontrés, refaire la bise, pourquoi pas finalement, mais aux amis et aux proches seulement.
Jonathan Sixou, c'est vrai que le poing c'est resté quand même. Nous-mêmes, quand on se croise en plateau, on ne fait pas la bise, juste pour couper court. Mais le poing, c'est resté un réflexe.
Je le vois, je le constate, je ne l'ai pas pratiqué, parce que j'ai trouvé ça totalement aberrant. Parce que entrechoquiez vos mains, vous avez pu vous mettre le doigt dans le nez avant. Je veux dire, c'est tout à fait... Ça, c'est pareil que si vous vous serrez la main.
Pour vous, c'est pire que la bise, quoi.
Non, c'est pareil que serrer la main.
Ah oui, d'accord. Donc,
vous avez interdit de se serrer la main et de se faire la bise. Alors là, le sujet aborde les deux. Et le point, pour moi, était le se substituer au serrage de main. Et ça me paraissait totalement aberrant.
Alors maintenant, vous faites quoi? Alors à l'époque, on a bien compris que vous faisiez rien parce que vous trouvez ça douteux. Mais maintenant, vous faites quoi? Il n'y a plus de Covid.
Je reprends le serrage de main. J'ai jamais été un amateur de bise générale. Quand il y a 12 personnes dans une pièce, faire la bise à 12 personnes.
Ça change rien à votre vie, quoi.
Ça change pas trop mon quotidien. Mais je vois que ça. Surtout, on parlait tout à l'heure des régions où on doit en faire 4.
Oui, je pense que là, on va un petit peu downgrader. Voilà. On est passé à 2, à mon avis. Hein. Régis Le Sommier, bise ou pas bise? De quelle école, dans quel camp, vous, aujourd'hui?
Ah non, moi, j'étais plutôt bise. Maintenant,
même
sur
pendant la crise?
J'essaie de quand on réalise un petit peu les comportements que... Et on est toujours un peu mal à l'aise, quand même. On se remarque qu'on ne sait pas trop. Parfois, on se voit, on s'en... Bon, et puis finalement, en effet, comme disait une des dames interviewées, on fait un espèce de petit truc comme ça. Bon, je sais pas. On a encore du mal à revenir à ça. On a du mal à se serrer la main. Pour ce qui est des tchèques là, comme ça. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était à Gao, parmi les soldats de Barkhane. Bien avant le Covid, pour des raisons, je pense, d'hygiène et du fait qu'il y avait beaucoup de bactéries. Ça avait été imposé comme une.
Oui, mais il vous dit qu'il y a autant de bactéries sur le poing que sur
donc,
les doigts.
Donc probablement il y en a un peu moins que quand on. Enfin voilà, je pense que c'était voilà. Mais pour ce qui est du retour de la bise, non, je crois que c'est pas généralisé. Hein. Je crois que c'est en effet, on sait qu'il manque cette part de socialité. On sait qu'on n'est pas revenu au monde d'avant. Ça c'est clair.
Il reviendra-t-on?
Je ne sais pas.
C'est pas sûr.
Les premiers signes ne donnent pas cette impression-là. Quand on voyait le nombre de gens qui portent des masques dans les transports en commun, comme en Asie, par exemple, on voit qu'on a passé un autre...
On a vraiment fait tomber le masque depuis Bellurette, quand même. On le voit de moins en moins cet été. Je ne sais pas si vous en avez vu beaucoup dans le train. Moi, pratiquement pas.
Dans le train, pas tant que ça, mais prenez le métro à Paris, l'autobus à Paris, vous en avez beaucoup.
Benjamin Cauchy.
Oui, moi, je suis content que le philosophe Carlos retrouve ses lettres de noblesse, le bisou. Donc, ça y est, ça revient. En même temps, ce qui revient, c'est la 4e vague de Covid qu'on nous annonce pour l'automne.
4e.
Non, c'est la 8e, je crois.
8e. Ouais. J'ai raté des épisodes. Non, mais plus sérieusement, c'est bien. Les Français ont besoin de se retrouver. Nous sommes un peuple latin. Donc, nous, on a besoin de contact. C'est preuve de notre sociabilité, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, j'ai retrouvé le chemin de la bise auprès de mes proches, mais auprès de gens intermédiaires qui ne sont pas véritablement des amis.
Ça permet aussi de marquer une gradation dans le rapport qu'on établit avec
absolument.
Les autres.
Absolument, il y a une gradation, mais j'adore embrasser.
Mais on peut aussi mal le prendre quand quelqu'un ne fait pas la bise. Ça veut dire que vraiment, vous n'êtes pas dans leur premier cercle. Hein.
Exactement. Il y a des
ça peut aussi
cercle.
Froisser. Absolument. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui disent finalement... Bon débarras. Hein. On a réussi à s'en débarrasser. Non, moi, je suis vraiment pas pour la bise.
Avant de revenir à poser ses lèvres sur la joue d'un autre ou de faire un petit smack, ce qui sera intéressant, c'est que les gens relèvent leurs yeux de leur téléphone et puissent se regarder et que les regards peuvent se croiser dans la rue, dans les transports en commun. Et là, on retrouvera un peu d'humanité. Donc le bisou, c'est bien. Alors, se regarder dans les yeux, c'est encore mieux.
Merci beaucoup. Ça, c'est tellement romantique en plus. C'était la phrase idéale pour terminer cette émission du vendredi. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous les trois et à vous qui nous avez accompagnés au cours de cette heure et demie. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Patrice Boisfert pour le punchline du vendredi. Je vous dis à lundi avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Et bisous.